Bonsoir à tous, merci d'être venus malgré la chaleur écrasante. Lita Bassé, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Alors Lita Bassé, vous êtes théologienne protestante. Vous enseignez donc la théologie pratique à la faculté de théologie de Neuchâtel. Vous dirigez une revue de théologie qui s'appelle La chair et le souffle. Et vous faites également, vous pratiquez de l'accompagnement spirituel depuis plus de 25 ans, je crois. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages parus essentiellement chez Albin Michel. Alors pour en citer quelques-uns, Aimer sans dévorer, Ce lien qui ne meurt jamais, Guérir du malheur, La joie imprenable, je ne vais pas tous les citer. Vous avez, au cours de ces différents ouvrages, travaillé beaucoup sur, on va dire ça comme ça, sur les affects de la psychologie humaine, sur les émotions souvent néfastes. Hein. Vous aviez fait, je crois, votre thèse de philosophie sur la culpabilité. Donc c'est un sujet qui a occupé de nombreux ouvrages.
Sur le mal subi.
Sur le mal subi, précisément.
C'est la thèse de théologie.
D'accord. Oui.
Doctorat de théologie.
D'ailleurs, on va en parler, oui.
Mais vous avez raison, j'ai d'abord fait ma première formation et la philosophie, effectivement.
Voilà, vous avez d'abord commencé par la philosophie, ensuite enchaîné sur de la théologie. Oui. Et c'est d'ailleurs une interdisciplinarité qu'on retrouve dans chacun de vos livres, hein, parce que vous faites évidemment un travail de théologienne en lisant les textes, en nous offrant les textes comme ça, dans une espèce de grande clarté, toujours en rapport, évidemment, avec un problème qui se pose, lié à une souffrance humaine, même si vous avez fait aussi des écrits sur la joie ou sur des thématiques qui sont moins marquées par la souffrance. Comme c'est d'ailleurs le cas ce soir, puisque vous venez donc nous présenter votre dernier livre, Osez la bienveillance, donc toujours aux éditions Albin Michel. Alors en fait, ce livre, vous l'avez construit de la manière suivante. Vous êtes parti quand même du pire obstacle à la bienveillance. Qui est la doctrine du péché originel, instituée par saint Augustin au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Vous dressez un historique un peu noir, et ça peut se comprendre donc de cette doctrine à travers les siècles. Et ensuite, vous expliquez en quoi justement le péché originel a fait naître chez chacun de nous un sentiment de culpabilité enfoui dans l'inconscient collectif. Voilà. Et qui, dont il faut justement se débarrasser, qu'il faut arriver à dépasser pour retrouver une vraie responsabilité d'homme tournée vers plus de bienveillance. Et vous appuyez évidemment sur les textes. Alors juste deux mots quand même pour revenir sur cette doctrine du péché originel. Vous en parlez comme donc d'un héritage toxique, comme d'un lavage de cerveau. Vous avez des mots assez forts. Donc c'est vraiment, selon vous, le pire obstacle à cette croissance spirituelle et à cette bienveillance dont on est tous capables.
Alors, en effet, je suis partie du sentiment qui devenait de plus en plus fort chez moi de saturation, d'entendre des discours négatifs et dénigrants sur l'être humain. Sur la nature humaine en particulier, et je me suis demandé pourquoi en Occident on avait toujours besoin de dénigrer l'être humain, de dire que par nature on était mauvais, méchant, violent, destructeur, égocentrique, indifférent aux autres, etc. Et ça m'a fait j'ai eu l'impression que c'était vraiment dans notre inconscient collectif quelque chose qui était très propre à l'Occident, et ça m'a fait revisiter notre histoire. Et donc ces 15 siècles de doctrine du péché originel qui ont énormément marqué les mentalités, les esprits, et qui font que aujourd'hui, bien que beaucoup de gens aient quitté les églises ou n'aient même plus d'instruction religieuse, on va dire, ne se reconnaissent pas dans l'héritage chrétien, beaucoup de gens quand même sont marqués par cette culpabilisation ambiante, on va dire, qui souvent tourne à l'accusation ou à la méfiance à l'égard des autres, bref, à beaucoup de ce que j'appelle dans ce livre des fléaux sociaux, sur lesquels on reviendra peut-être, mais qui font que la bienveillance n'est pas vraiment, on va dire, à l'ordre du jour jours dans notre façon d'être, de nous relier les uns aux autres. Alors je me suis dit, mais pour accéder à cette bienveillance qui pourtant est tout à fait présente dans les textes bibliques et dans l'attitude de Jésus en particulier, et même dans les textes qui parlent de Dieu, du regard de Dieu sur l'être humain, pour pouvoir s'approprier tous ces textes magnifiques qui présentent l'être humain comme une créature de Dieu et donc une vraie merveille, dit le psalmiste, eh bien, il fallait commencer par nous déparasiter, en quelque sorte, de tout ce discours négatif, condamnant sur l'être humain. Et que donc, pour accéder progressivement à la bienveillance, nous devions nous dépolluer, en quelque sorte, des regards malveillants et des propos malveillants et des comportements malveillants dont nous avons pu être l'objet, malheureusement, souvent depuis le berceau. Donc c'est un peu le chemin que j'ai suivi dans ce livre pour accéder progressivement à une possibilité d'entendre avec des oreilles neuves ou de voir sans les lunettes doctrinales, de voir les textes bibliques et de voir cette bienveillance qui parcourt et habite ces textes et notamment l'attitude de Jésus vis-à-vis des adultes, mais aussi vis-à-vis des enfants.
C'est justement là où je voulais en venir, parce que c'est très intéressant de remonter donc, tout ce parcours historique de la doctrine du péché originel. C'est d'autant plus frappant quand il s'agit de l'enfant, effectivement, puisque cette doctrine, donc l'homme né méchant, l'homme né mauvais, donc pendant des siècles et des siècles, l'enfant a quand même été vu un peu comme le diable.
Tout à fait.
Et ouais. Jusqu'à quand même, vous aimez bien Rousseau, on le sent. Et,
oui, oui. Enfin, je reconnais que Rousseau est un précurseur, c'est vrai.
Oui. Voilà, puisque vous parlez aussi beaucoup des violences éducatives, notamment 16e, 17e siècle, faites aux enfants, qui auraient été aussi justifiées par cette doctrine.
Ah, depuis toujours. Ouais. Ça ne remonte pas au 16e, 17e. Alors là aussi, quand j'évoquais tout à l'heure les fléaux sociaux liés à cette doctrine du péché originel qui a quand même été inculquée, je parlais de lavage de cerveau parce que c'est assez impressionnant quand on voit les textes et comment des historiens comme Jean Delumeau, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Jean Delumeau, Le péché et la peur, Le péché et la peur, sous-titre La culpabilisation en Occident du 13e au 18e siècle. Si vous lisez ce livre-là, vous avez de la peine à dormir après. Hein. Puis vous vous dites que c'est vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres, quand c'est pas vous-même qui avez baigné dans cette éducation-là. C'est effarant quand même. C'est effarant. Et donc, votre question, c'était le regard sur les enfants. Et donc, très rapidement, le dogme du péché originel date de 418, et très vite on a généralisé le baptême des enfants, parce que comme le dogme disait que l'enfant était un suppôt de Satan, n'oubliez pas, disait des textes, le rituel de Tours, hein, ça date du 19e siècle, n'oubliez pas quand vous amenez un enfant au baptême que ce sont des criminels que vous amenez au baptême, et ce sont des suppôts de Satan, des enfants de la colère. C'est vraiment les mots qui sont dans les textes et on peut dire qu'on a généralisé le baptême des enfants immédiatement après que le dogme a été accepté en 418 parce que la grande terreur de beaucoup, beaucoup de gens, c'était que leur enfant soit damné s'il n'était pas baptisé le plus vite possible. Donc ça a généré la nécessité de baptiser l'enfant in utero. Quand il y avait un problème qui risquait de se poser. Alors, moi, je veux bien croire que j'ai une vision noire, mais c'est les textes qui sont noirs. Parce que, je vous donne juste un exemple, c'est au 18e, je crois que c'est au 18-19e, il y a la recommandation d'un archevêque en France, archevêque du Mans, on a les textes, qui recommandait que s'il y avait un problème au niveau de la grossesse et que l'enfant risquait de venir au monde mort, il fallait ouvrir la mère, morte ou vive, de préférence avec un rasoir, et surtout de garder le fait secret. Que ça ne se sache pas, pour pouvoir baptiser l'enfant au plus vite. Et les historiens rajoutent, on a fait énormément de progrès quand des médecins belges ont inventé la sonde. La sonde, c'était pour pouvoir baptiser l'embryon. Vous comprenez ? Ce qui veut dire à quel point l'être humain était mauvais, l'embryon devait être absolument baptisé, sans quoi il risquait, en venant au monde, pas baptisé. S'il venait au monde mort, eh bien, il était damné. Alors après, il y a eu l'invention des limbes au XIIIe siècle, mais bon, c'est quand même des choses... Enfin, là, on n'a pas du tout le temps d'aller dans le détail, mais quand on lit l'histoire, enfin, les documents historiques, c'est effarant.
Et c'est d'autant plus frappant que c'est en totale contradiction avec les textes,
oui,
avec les évangiles, quand on prend la manière dont Jésus parle des enfants.
Accueillir les enfants,
par
oui.
Par exemple.
Oui.
Et même si on va un peu plus loin dans les textes, au niveau de la Genèse, puisque le péché originel concerne tous les hommes en tant que descendants d'Adam, vous dites qu'on ne trouve pas le mot chute, ni le mot faute ou le mot péché dans les trois premiers chapitres de la Genèse.
Le mot péché, il apparaît au chapitre 4 de la Genèse. Donc, absolument pas dans l'histoire de d'Adam et Ève. Donc, dans l'histoire de la Genèse 2 et 3, le mot péché n'existe pas, n'y est pas, encore moins originel. Chute, absolument pas. Il n'y a même pas le mot paradis. C'est ça qui est intéressant aussi. On peut faire la liste de tout ce qui n'y est pas. S'il n'est pas dit une minute que l'être humain aurait créé le mal et l'aurait inventé et l'aurait introduit dans le monde, ça n'est pas dit nulle part que l'être humain aurait provoqué que la mort existe dans ce monde. Il n'y a rien de tout ça. Et puis, alors, moi, ce que je trouve le plus fort, c'est que Jésus n'a jamais, au grand jamais, prononcé cette expression de péché originel. C'est quelque chose qui est vraiment né, je vous dis, au début du 5e siècle. Et Jésus lui-même n'a même pas fait une seule fois, dans aucun de ses enseignements, mention de Adam et Ève. Pas une seule fois. Donc c'est quand même les évangiles. Alors en principe, quand même, la tradition chrétienne se base sur les évangiles. Donc
oui,
voilà.
L'attitude
de Jésus par rapport aux enfants, il faut vraiment se boucher les yeux et les oreilles pour ne pas voir que Jésus n'était que bienveillance à l'égard des enfants et qu'il les accueillait sans condition. Une fois, il y avait les disciples qui rabrouaient les enfants parce que les tout petits qui venaient vers Jésus, il leur disait laissez-les venir. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc notre modèle, c'est les enfants, et même les tout-petits. Donc on peut se demander qu'est-ce qui nous a pris pendant tant de siècles. Quand j'ai dit nous, ce n'est pas seulement la tradition catholique, parce que la tradition protestante, les réformateurs ont embouché la même trompette. Ils ont pas du tout estimé que c'était une erreur et que c'était en contradiction avec les textes bibliques. Et on trouve des textes chez Calvin et Luther à vous empêcher de dormir, notamment sur les enfants. J'en ai des citations là. Mais des fois, dans certains publics, je vois des protestants avec des croix huguenotes qui hochent la tête avec véhémence, d'un air de dire, en tout cas, nous, on n'a pas ça chez les protestants. Désolé. C'est tout à fait chez les réformateurs. C'est exactement pareil.
Les orthodoxes, par contre, ne reconnaissent pas cette doctrine.
Il n'y a que la tradition orthodoxe qui, elle, n'a pas adopté, justement, ce dogme du péché originel. Et qui voit l'être humain comme quelqu'un qui fait des erreurs, qui est effectivement...
Qui est corruptible, mais pas corrompu.
Tout à fait. Pas dans sa nature profonde, qui reste toujours capable de grandir et qui considère un peu, au fond, toute l'histoire d'Adam et Ève, la Genèse, ces textes-là, comme des péchés de jeunesse, on va dire ça comme ça, ou des crises de croissance. Et il y a des textes magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Irénée. Saint-Irénée, c'est fin du deuxième siècle. Il a vraiment une conception magnifique de l'être humain, comme vraiment quelqu'un qui peut toujours progresser, qui est au fond, pourvu qu'on le regarde avec bienveillance et qu'il accueille ce regard de bienveillance sur sa personne, va donner le meilleur de lui-même et va progresser.
On va peut-être pas rester très longtemps sur la doctrine du péché originel, mais ça me fait quand même penser que, effectivement, pendant les trois premiers siècles d'après Jésus, d'après le christianisme, il n'en a jamais été mention. Et alors, c'est à se demander pourquoi Saint Augustin, Qu'est-ce qu'il lui a appris? Est-ce que c'est lié à son histoire personnelle? Est-ce que c'est lié aussi au contexte de l'époque? Il était aussi une époque, je ne sais pas, très mouvementée.
Oui, il y a eu un combat théologique, si on veut, contre un certain Pélage qui disait que l'être humain était, gardait sa liberté et qu'il pouvait à chaque moment revenir à Dieu. Parce qu'au fond, l'idée, c'est d'être coupé de Dieu. Je voudrais que... Je peux préciser ça?
Oui, oui.
Dans ce livre et d'une façon générale, je fais une grande différence entre la doctrine du péché originel qui dit qu'on est mauvais par nature, depuis notre conception. Je fais une grande différence entre ça et que ça se transmet d'hérédité de génération en génération de façon par l'hérédité, qui me paraît quelque chose de pas du tout biblique et d'extrêmement destructeur. J'ai fait une grande différence avec la réalité du péché. Le mot péché, on peut plus employer le mot péché dans notre culture en Occident parce que ça nous ramène au péché originel et à Adam et Ève. Alors que le mot péché dans la Bible veut dire tout simplement la non-relation avec l'autre. Grand A, petit a. Et alors, donc, je fais une petite parenthèse, elle est importante. Et puis, donc, il luttait contre un moine qui s'appelait Pélage et qui lui disait, mais non, on n'a pas perdu notre liberté définitivement avec Adam et Ève, mais l'être humain, à tout moment, peut devenir, se responsabiliser et revenir à la relation et être en lien de nouveau. Et donc, ça a été un combat, on ne va pas entrer dans les détails peut-être, parce que, je peux en dire beaucoup plus sur Saint-Augustin, mais on ne va pas entrer dans ces détails-là, sinon on n'en sortira jamais. C'est pour dire que la chrétienté n'était quand même pas tout à fait d'un seul bloc à l'époque. Il y avait 18 évêques qui étaient récalcitrants. Quand Saint-Augustin a vraiment imposé cette doctrine, que ça soit adopté comme dogme, le pape de l'époque, on lui a forcé la main. Il n'était déjà pas 100% d'accord. Et il y avait 18 évêques qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est pour dire que ça n'était pas si facile que ça d'imposer cette doctrine. Qu'on était mauvais dès la naissance, dès la conception, et que ça se transmettait de génération en génération par l'hérédité. Voilà. Alors, j'avais pensé à quelque chose, parce que votre question, c'était que pourquoi il en était arrivé là. Oui, je voudrais élargir le problème. C'est dire que nous, par exemple, ça nous plairait... Enfin, nous cherchons toujours, quand même, une explication au mal, hein, à la souffrance, au malheur. C'est quand même très difficile de faire le deuil de cette explication. Et donc, saint Augustin, il était comme nous, il avait besoin d'une explication. Et il disait, et c'est très touchant ce qu'il écrit, il écrit que comment ça fait qu'on, l'être humain, on doit, les êtres humains, on doit faire face à tellement de malheurs et de souffrances et de difficultés dans nos vies. Puis il énumère tous les malheurs qui nous arrivent, qu'on n'a pas du tout cherché, qu'on n'a pas voulu, pour lesquels on n'est pas responsable, mais quand même ils sont là. Et il n'a pas trouvé, notamment, la souffrance des enfants.
Paradoxal.
C'est un homme très complexe. Hein. Lui-même était battu comme plâtre, mais vraiment torturé, dit-il, par ses maîtres et ses maîtres et ses parents qui étaient d'accord des châtiments corporels, parce que on voulait lui imposer par exemple d'apprendre le grec. Puis lui, il n'arrivait pas à apprendre le grec, et alors il décrit les instruments de torture qu'on utilisait pour le forcer à apprendre la langue. Donc c'est des choses qu'il comprenait pas, et il avait besoin d'une explication. Il a cru qu'il avait trouvé l'explication. Mais il s'est beaucoup contredit bien des fois, et il était pas 100%, moi je crois qu'il n'était pas convaincu 100%, mais c'était la meilleure explication qu'il trouvait, que c'est parce qu'on était mauvais, c'est parce qu'on était méchant qu'il nous arrivait régulièrement tous ces malheurs. Alors on va dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la phrase archi connue, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ce qui m'arrive? Et donc on peut dire qu'on a tous le même réflexe de se dire, si tel et tel malheur m'arrive, c'est parce que je suis mauvais, j'ai fait des choses fausses, j'ai fait faux, j'ai péché, j'ai fauté, etc. Donc moi, quand on me dit, mais pourquoi ça a duré si longtemps cette doctrine, qu'on a pendant tant de siècles, on l'a acceptée, l'historien Jean de Lumeau au XVIIIe siècle, il disait... Au XVIIIe siècle, il n'y avait même pas la question du mal, ce qu'on appelle aujourd'hui le problème du mal, ça n'existait pas. Parce que tout le monde pensait que c'était clair et net. Le mal s'expliquait à cause de Adam et Ève. Donc ça, on n'avait plus de problème avec le mal, vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, les gens, et notamment les chrétiens, s'arrachent les cheveux en disant, mais finalement, pourquoi le mal? Pourquoi le mal existe? Pourquoi la souffrance absurde? Il n'y a pas de sens. On se retrouve confronté au non-sens. Alors, je crois que ça a tenu très longtemps parce que c'était une explication au niveau de la tête. Après, il y avait une autre raison quand même pour que ça ait duré si longtemps, c'est que c'était un sacré instrument de pouvoir. Ouais. Parce que l'Église et l'État se tenaient quand même main dans la main pour expliquer aux foules, au peuple, écoutez, vous, hein, quand on vous laisse libre, vous voyez ce que ça donne. Hein. Ça donne Adam et Ève. Hein. Donc, vous n'êtes pas capable de gérer votre liberté, donc il vous faut une tutelle. C'était ça quand même qui a été beaucoup, beaucoup le discours. Hein. Et la pratique aussi. Donc voilà un peu dans quoi on s'est empêtré, on va dire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on commence quand même à avoir on commence à entendre les textes bibliques autrement.
Oui. Oui. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs tout le travail que vous faites dans votre livre. Justement, vous venez d'en parler. La doctrine du péché originel a ce confort intellectuel qui fait qu'on ne se pose pas la question du mal. Mais vous, justement, un peu plus loin dans le livre, vous vous posez la question du mal subi. Il y a toujours une histoire personnelle, en fait.
Oui, je ne déconnecte jamais, voilà. Parce que je pense que la Bible ne le fait pas, ne déconnecte jamais le mauvais comportement, le comportement destructeur, le comportement où on se coupe des autres et où on n'est pas en lien avec eux et où on dysfonctionne et on fait du tort. Jamais la Bible, et moi non plus, ne sépare ça du malheur personnel. C'est-à-dire, si vous voulez... Le mal que je commets n'est jamais déconnecté du mal que je subis, que j'ai subi ou que je subis. C'est toujours une même réalité. Dans tout être humain, il y a une part de malheur où il n'y est pour rien, où la vie l'a écrasé, les autres l'ont écrasé, il porte des souffrances. Et en même temps, il a aussi une part de malfaisance. Donc, d'où tout ce thème... qui occupe tout un chapitre sur malheur et malfaisance, que c'est un tout. Et je ne peux pas dire de telle personne ou de moi-même, il y a tant de pourcentage de malheur et tant de pourcentage de malfaisance. Tant de pourcentage de ce que j'ai subi où j'y suis pour rien, et tant de pourcentage où c'est moi qui ai fait du tort aux autres, du mal aux autres. Et je crois que Jésus non plus ne le faisait pas du tout. Quand on lui parlait de bon ou de mauvais, il refusait ça. Il disait, il n'y en a pas. Parce que pour lui, l'être humain, il était un mélange complexe. Il y a un mot en grec qui est poneros, qui veut dire à la fois malheureux et malfaisant. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans les évangiles quand Jésus parle de Judas ou de certains scribes et pharisiens ou de comportements qu'il veut montrer du doigt. Jamais il ne dissocie le dysfonctionnement, le comportement destructeur à l'égard des autres, ou le tort, la faute, du malheur de la personne. Alors que nous, enfin, ouvrons nos journaux, écoutons la radio ou la télé, on a constamment les monstres d'un côté, les bons et les méchants, et on est toujours dans ce monde où il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de comprendre que l'être humain est complexe et que il y a un mystère humain qui est que l'être humain vit des choses extrêmement difficiles dès la naissance. Ça, j'ai tout un chapitre là-dessus. Hein.
Oui, d'ailleurs...
Ce que c'est que de venir au monde, vous vouliez en parler aussi?
On peut en parler, oui, parce que c'est un peu là où je voulais en venir aussi. Ok. Qui est un peu le premier traumatisme que l'on vit. C'est-à-dire que naître, en fait, c'est pas... on est expulsé d'un paradis utérin, comme vous dites.
C'est ça.
Donc c'est une première souffrance.
Alors c'est plus qu'une souffrance, à mon avis c'est le chaos, l'équivalent du chaos, du tohu-bohu, oui, qu'on a dans la Genèse 1, au chapitre 1 de la Genèse, où à l'échelon individuel, le fœtus qui a baigné pendant 9 mois dans ce qu'un psychanalyste qui est en même temps médecin, biologiste, neurologue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'est pas, il est philosophe aussi, s'appelle Jean-Marie Delassus. Jean-Marie Delassus, il dit le fœtus, il baigne dans la totalité originelle. C'est-à-dire qu'il est à lui-même sa totalité, si vous voulez. Parce que son environnement... Et lui-même, c'est un tout, si vous voulez. Il forme à lui-même la totalité originelle. Et tout à coup, il est expulsé. D'ailleurs, le mot, quand il y a un accouchement, on parle d'expulsion. Hein. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il est tout à coup expulsé. On dit la délivrance pour la mère, mais pour l'enfant, le bébé, c'est l'expulsion, hein, quand même. Et l'expulsion, ça veut dire qu'il se retrouve dans un monde qu'il ne reconnaît absolument pas. C'est le chaos total. Il a des mots très très forts, il se base d'ailleurs même d'autres, comme Freud ou beaucoup d'autres auteurs, soulignent la même chose, c'est que le fœtus, quand il est propulsé dans ce monde, de la suite, appelle le monde de la différence. C'est-à-dire que c'est tellement différent qu'il reconnaît rien, il n'a plus aucun repère. Et c'est l'équivalent, ça c'est moi qui le dis, du tohu-bohu du début de la Genèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la Genèse, dans un commencement où Dieu créa le ciel et la terre était tohu-bohu. Et la ténèbre à la surface de l'abîme, etc. Et c'est l'abîme, et c'est l'obscurité totale, et c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire que, pour reprendre le bébé, il pourrait mourir tout de suite s'il n'avait pas, c'est là qu'intervient déjà la bienveillance, un regard de bienveillance et de bonté qui l'accueille. Et là, dans le laps de temps où il a en face de lui, en principe c'est la mère, mais quelqu'un qui s'occupe de lui et qui lui donne cette bienveillance inconditionnelle et gratuite, dans ce petit moment-là, parce que ça ne peut pas se faire 24 heures sur 24, mais au moins pendant un certain temps, il retrouve la totalité originelle, si vous voulez. Il dit, Jean-Marie Delassus dit que cette bienveillance, cette bonté qu'on donne au tout petit qui vient de naître, c'est l'équivalent, il dit la bonté, moi je dis la bienveillance, est un équivalent utérin. C'est là qu'il retrouve pour quelques moments, pour quelques instants, la totalité originelle. Et là il reconnecte avec comment c'était avant. Et c'est ce qui va faire que il va quand même décider de vivre. Prendre, disons, s'accrocher dans cette vie où pourtant au premier abord il n'y reconnaît plus rien. Donc c'est des choses qui sont documentées, hein. C'est un médecin, c'est un neurologue, c'est un biologiste, donc tout ça il a observé énormément les premiers temps de la vie, les premières heures, les premiers jours, et il dit on peut tout à fait, tout est dit sur la base d'études, d'expérimentations, d'observations. Il dit on constate une dépression tonique, une dépression carrément. Le bébé se replie, c'est comme s'il s'effondrait. Il y avait un effondrement du tonus musculaire au tout début. Et c'est à ça qu'on peut voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de la détresse et d'une sorte de dépression tonique, si vous voulez, au tout début. Bon, bref, alors si je reviens au chaos, au tohu-bohu des origines, c'est tout ça pour dire que je crois que dans le langage mythique de la Genèse, ou des textes bibliques en général, mais en particulier du récit de Genèse 1, on a l'équivalent de ce qui se passe au niveau de l'individu. C'est-à-dire que notre humanité ne peut se déployer qu'à partir d'un chaos. C'est la réalité. Pourquoi c'est comme ça? Je ne le sais pas, personne ne le sait. Même Jésus ne le savait pas. Mais ça commence par un chaos à l'échelon individuel et on peut dire que l'humanité a toujours à conquérir ses relations de bienveillance et de viabilité à partir d'un tohu-bohu. C'est un peu ça, je crois, qui est dit. Et donc, on ne pourra jamais... Si quelqu'un sait que la vie humaine est difficile, c'est bien Dieu. Puisque la première chose qu'il fait, c'est de rendre la vie possible dans ce chaos des origines. En disant, le ciel sera ici, la terre sera là, ici il y aura les océans, ici il y aura les continents, ici les oiseaux, ici les reptiles. Il fait tout ce travail de différenciation pour que la vie devienne viable. Il faut bien que, quand on voit le texte, on voit bien que ça commence par le chaos. Alors que nous, on nous a seriné pendant 15 siècles que ça commençait par le paradis, que tout était magnifique et idyllique et que c'est l'être humain qui a tout fait foirer. C'est pas dans les textes. Je suis désolée, mais c'est pas dans les textes.
Donc là, oui, tout ça se trouve dans une partie qui s'appelle prendre en compte toute la réalité humaine.
Oui.
Donc peu à peu, on en vient à parler bienveillance, sollicitude. On parle aussi d'empathie. On peut peut-être aussi dire deux mots sur les recherches quand même qui ont lieu depuis quelques décennies concernant l'empathie, alors que ce soit l'empathie animale par Franz Deval, ou que ce soit même le travail par le psychologue Jacques Lecomte sur la bonté humaine. Vous citez aussi le cas des Justes. On se rend compte quand même que l'empathie est un moteur à
très
la base.
Présent. Ouais. Voilà. Et en fait, qui est un fondement, on a les traces neurologiques de l'empathie. C'est ça qui est fascinant aujourd'hui. Ça fait 20 ou 30 ans que les neurosciences ont découvert justement que l'être humain possédait, que les racines de l'empathie, c'est vraiment constatable depuis le berceau. Il y a des multitudes d'observations, d'études et d'expérimentations qui ont été faites. Et Franz Deval, il dit qu'on est les cousins germains des bonobos, hein, des singes bonobos. Oui. Et que c'est des singes qu'il a énormément étudiés. Il est fasciné par l'empathie de ces singes, les uns à l'égard des autres. Mais le petit homme, le petit humain, quand on a arrêté de le voir avec les lunettes du péché originel, on a commencé à regarder le comportement réel des tout-petits. Et c'est assez fascinant ce qu'on a découvert. C'est que cette empathie, elle est présente dès les premiers temps de la vie. Et que si l'environnement est bienveillant et lui-même empathique, l'environnement, eh bien, le petit va grandir et sa capacité d'empathie va grandir avec. Donc, on ne peut pas tout dire là,
oui,
mais
non.
C'est diamétralement opposé à cette vision dogmatique qu'on avait pendant tant de siècles.
Si on retourne un peu au texte, un épisode des évangiles qui illustre très bien la bienveillance, c'est l'épisode de Zachée.
Alors justement, le livre conduit tranquillement vers la rencontre de Jésus avec Zachée, qui est donc un... Vous voulez que j'en dise un peu là-dessus ?
Oui, vous voulez qu'on attende un peu ?
Non, moi je veux bien
bon,
en parler.
Alors,
c'est parce que ça nous montre bien qu'il y a un parti pris chez Jésus de considérer l'être humain comme un enfant de Dieu. Quoi qu'il ait pu dire, quoi qu'il ait pu faire, quel que puisse être son comportement, le jour où Jésus rencontre Zachée, ça ne présent que dans l'évangile de Luc, pas dans les autres. Moi, j'aime bien Luc parce que je trouve qu'il a beaucoup d'histoires qui sont justement où il montre comment les relations peuvent évoluer. Et il a une vision très dynamique des relations interpersonnelles. Et surtout, le Jésus qui apparaît dans l'évangile de Luc, c'est vraiment un regard inconditionnellement bienveillant. Vous connaissez l'histoire de Zachée ? Donc, Jésus rentre dans une ville qui s'appelle Jéricho et il y a un homme petit de taille qui est monté sur un arbre pour le voir passer parce qu'il avait entendu parler qu'il allait passer. Et Zachée était très riche parce que, enfin, les deux choses sont liées, il était un collecteur d'impôts. Bon, à l'époque, ça fait toujours rire parce que maintenant, il y a quand même des gens qui ont pour métier le collecteur d'impôts. Mais il était, si on veut, dans un contexte français, il était collabo. Puisqu'il ramassait l'argent des Juifs pour l'occupant romain. Et c'était une catégorie de Juifs qui était très mal vue, parce que non seulement il faisait ça, mais au passage, il s'en mettait plein les poches. C'est le genre marché noir, si on veut aussi. Hein. Enfin, c'est ces gens qui s'enrichissent grâce à l'occupant, à la présence de l'occupant d'une certaine manière. Et lui, il était le chef des collecteurs d'impôts, donc voilà. Et montré du doigt dans la foule, dans la suite de l'histoire, on voit la foule qui parle à voix basse et qui critique Jésus d'être allé chez Zachée. Alors, quand Jésus... Donc, le texte dit qu'il cherchait à voir Jésus. Et puis, quand Jésus passe, il le voit sur son arbre et lui dit « Vite, Zachée, descends, j'ai besoin d'aller chez toi, de loger chez toi. » Donc, il s'invite chez Zachée. Et Zachée descend tout joyeux de son arbre, dit le texte, et il le reçut dans sa maison. Et là, il n'y a jamais le mot bienveillance dans ce texte, mais on voit les fruits, c'est ça. Je pense que la bienveillance, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'afficher ici, on n'a pas besoin de mettre un écriteau, regardez, je suis quelqu'un de bienveillant. C'est pas, on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est toute l'attitude, toute, la manière d'être, la manière de parler, d'être en relation où la bienveillance traverse en quelque sorte. J'appelle ça une bienveillance incognito. C'est la manière divine en fait de se manifester. C'est une bienveillance qui devait être telle que Zachée ne s'est jamais senti ni jugé, ni critiqué, ni contesté. Jésus n'a pas fait la moindre allusion à sa manière de vivre, à son comportement, mais il a simplement dit « j'ai besoin d'être en relation avec toi ». Et du coup, Zachée, le texte dit que Zachée se lève et dit à Jésus « voilà, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres, et si quelqu'un a fait, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le réparer, je le répare ». Il dit ça au présent. Et Jésus s'émerveille parce qu'il dit, ben voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans cette maison de l'ordre du salut, c'est-à-dire de l'ordre de la plénitude des relations. Shalom, c'est la paix, la joie des relations, c'est la santé aussi. Enfin, c'est vraiment l'accomplissement. Enfin, un salut est entré dans cette maison, ça veut dire vraiment, il y a un avant et un après, quoi. Et puis pas seulement pour Zachée, mais aussi pour les gens de sa famille, hein, la maisonnée. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que Jésus n'a absolument rien dit. Il ne lui a pas dit, dis donc, Zachée, tu ne crois pas que tu pourrais changer un peu de comportement ? Comme nous, on nous a longtemps éduqués comme ça. Parce qu'on commence par dire, ça ne va pas comme tu es. Il faudrait que tu changes. Et Jésus, il ne dit pas ça. Il lui dit, il l'accepte tel qu'il est. Donc, c'est un regard de bienveillance inconditionnel sur sa personne. Et alors la chose comique, c'est que Zachée, le nom de Zachée, devinez ce qu'il veut dire en hébreu. Parce que Zachée, c'est une transcription en français, mais le mot Zachée en hébreu, il veut dire pur et innocent. Ce qui veut dire que dans son être profond, Jésus était vraiment, au fond, en lien avec son être profond de Zachée. Et c'est ce que j'appelle une bienveillance féconde, parce que c'est quand j'accueille quelqu'un, c'est valable pas seulement pour quand les gens qui vont visiter des détenus en prison qui ont commis des délits et des crimes, mais même dans la vie de tous les jours, des gens qui ont fait des coups tordus, etc. Quand j'accueille la personne dans son être profond, dans ce qu'elle est profondément, eh bien, ça, en quelque sorte, la personne se responsabilise. Et puisque là, il dit, Zachée, il ne se sent pas condamné par Jésus, il ne se sent pas culpabilisé par Jésus, pas accusé, et il se lève et il dit, voilà, je fais ci, je fais ça. C'est-à-dire, je répare ce qui a été destructeur dans ma manière de me comporter. Donc, moi, ce qui me fait dire que pendant 15 siècles, on a voulu culpabiliser les gens, et maintenant, si on commence à un peu moins les culpabiliser, mais à les regarder avec bienveillance, ça va les pousser à se remettre en lien les uns avec les autres et à se responsabiliser, c'est-à-dire à prendre la responsabilité de ce qu'ils font. Et ben là, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le répare. Je restaure mon tissu social, je restaure mes relations. Et donc, il y a tout un mouvement, un dynamisme vers une responsabilisation. Mais je veux dire un mot du retour à la relation. Je disais que le péché, dans toute la Bible, ça voulait dire la non-relation. C'est quand j'ai, à force de souffrir, d'en avoir trop vu, etc., je m'enferme. Je me replie sur moi et je dis, je n'ai plus besoin de personne. Et du coup, j'évacue aussi, pas seulement les autres petits A, mais le tout autre grand A. OK ? Donc ça, c'est ce que la Bible appelle le péché, dans le sens de le repli sur soi et la fermeture définitive à l'autre. Alors, ça veut dire que c'est un Dieu qui n'arrête pas de dire « mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la relation avec toi ». Et c'est exactement ce que fait Jésus à l'égard de Zachée. Zachée, j'ai besoin d'être en relation avec toi, en relation vraiment vivante. Descends de ton arbre, j'ai envie de venir chez toi. Chez toi, c'est aussi dans ton intérieur, là. Pas seulement dans ton intérieur de ta maison, mais dans ta intériorité. Et les Juifs, dans le judaïsme, on appelle ça « teshuva ». Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, qui veut dire le retour. C'est pas nous, on a une déformation en Occident, c'est il faut se convertir, il faut se repentir, il faut surtout se repentir et faire repentance. Or, en hébreu, ce mot n'existe pas. Il n'y a pas de mot repentir et repentance, mais par contre, il y a teshuva. Teshuva veut dire retourner à la relation, revenir à l'autre, revenir dans le lien. Et c'est exactement ce que fait Zachée au contact de Jésus. Il revient à la relation. Donc, c'est pas, vous voyez que ce n'est pas moralisateur, ce n'est pas culpabilisant, mais ça appelle, c'est un jeu qui appelle un tu. C'est Jésus qui dit, ben, toi, moi Jésus, j'ai besoin de la relation avec toi, Zachée. Et du coup, Zachée se retourne vers l'autre. Et quand on se retourne vers l'autre, petit a, eh bien, en germe, on se retourne vers l'autre, grand A. Il faut m'arrêter parce que moi, je ne suis pas m'arrêter.
Non, mais c'est passionnant de vous écouter parler. Donc, là, je... Oui, non, ça me fait penser, quand vous parlez de péché en tant que rupture de relation avec l'autre, c'est vrai qu'il y a tout un très beau passage aussi où vous citez différents symboles bibliques qui sont autant justement d'obstacles à la relation à l'autre. Par exemple, l'enfermement, l'errance.
La cécité.
Voilà.
Ouais, de ne pas être dans le lien, mais être à côté de la plaque, on va dire. Quand on est face à quelqu'un et qu'on est à côté de la plaque. Parce qu'on est aussi à côté de la plaque de soi-même, en fait. C'est toutes ces images qui ne sont pas moralisantes, pas culpabilisantes et qui sont à travers tous les textes bibliques.
Merci beaucoup, Lita Bassé. Merci à vous tous.